Emmanuel Bauve, un caractère de femme. Chapitre 1. Le 14 juillet 1922, on pouvait voir, vers 9h du soir, au premier étage de la maison de 4 étages, située au coin du boulevard Magenta et de la rue Albouy, deux fenêtres dont les volets n'étaient pas fermés, qui projetaient une lumière rose sur le trottoir que la pluie rendait semblable à un miroir. Les rares passants levaient machinalement la tête vers ces deux fenêtres, qu'on devinait celles d'un salon confortable où devait régner une température agréable et guère différente sans doute de tous les salons du quartier. Les rideaux, du filet blanc mélancolique, ne montaient qu'à hauteur de roseau, de sorte qu'on apercevait au-dessus, à peine déformé par les vitres, un lustre à pétales de sparterie et à ampoules de couleur. Quel que fût le goût des passants, ils ne devaient pas s'empêcher de penser qu'il faisait meilleur à ce premier étage que sous la neige fondue, grise comme de la poussière, qui tombait à l'instant où commence ce récit. En effet, une salamandre brûlait dans la pièce et à travers le mica, on apercevait la rougeur du foyer. Sur un plateau de cuivre, 5 tasses d'une blancheur éblouissante étaient disposées autour du sucrier, du pot à lait et d'un autre cercle plus petit de verres à liqueur. Des 4 personnes réunies autour du guéridon sur lequel était posé le plateau, aucune ne se souciait d'être vue de la rue. Il semblait même que ce fût un attrait de plus à la soirée. Madame Bénac avait invité ce soir-là son frère et sa belle-sœur, ce qui ne lui arrivait jamais, afin de rencontrer le fiancé, qu'elle ne connaissait pas davantage d'ailleurs, de sa fille Denise. Fiancé, le mot n'était pas exact. Il s'agissait plutôt d'un ami très riche, déjà âgé de 55 ans environ, et appartenant à une très bonne et très vieille famille de Nancy, M. Édouard Salmand. Il n'était pas encore arrivé, mais on n'était pas plus familier pour cela. Les volets étaient restés ouverts et on bavardait comme si l'invité était là, chacun écartant déjà tout sujet qui eût pu amener la conversation sur un thème familial. Comme M. Salmand, Mme Bénac avait un peu plus d'une cinquantaine d'années. Elle avait été commerçante et elle ne l'était plus. Elle dirigeait de son fauteuil les derniers préparatifs tout en causant avec son frère d'un an ou deux plus jeune qu'elle traitait en invité en cette circonstance, ce qu'elle lui faisait comprendre de temps à autre. Ils ne s'en froissaient d'ailleurs pas. Toute sa vie, il avait vécu de sommes prélevées sur des recettes journalières déportées dans les frais généraux du commerce de sa sœur. Aussi prenait-il le temps comme il venait. Sa femme, qu'il appelait Fernande à tout bout de champ, afin d'amener les gens à l'imiter et de créer ainsi une intimité qu'il savait lui être favorable, mettait la dernière main, avec Denise, aux préparatifs. Cette malheureuse n'avait pas connu beaucoup de joie dans sa vie. Aussi, ce soir-là, était-elle transformée par l'importance provisoire qu'on lui accordait. Elle allait et venait avec des airs affairés, se permettant de demander où était l'argenterie, avec cette assurance que donne la peine qu'on prend pour autrui. Quant à Denise Bénac, la fille de Madame Bénac, l'admiration de la famille, elle ne faisait que des remarques. C'était une jeune femme blonde qui tranchait sur sa famille par une élégance de bon goût, des manières plus distinguées. Il était visible qu'elle s'était frottée à la bonne société. Marcel Bénac se leva, fit quelques pas, se regarda dans la glace de la cheminée, tendit son gilet, tout cela avec la satisfaction que donne à un homme qu'on tient habituellement à l'écart le fait d'être admis à une cérémonie importante. « Il y a longtemps, dit-il soudain à Denise, que tu aurais dû nous faire connaître M. Salmand, ne serait-ce que dans ton intérêt. Une femme a toujours plus d'influence quand on la sait soutenue par les siens. »« Tu ne sais pas ce que tu dis. » »« Demande à Fernande qui est une femme. » »« Je t'en prie, tais-toi, ce n'est pas le moment de commencer tes théories. » Marcel Bénac se retourna, prit un air innocent. « Mais je ne commence rien. » « Je tiens à dire simplement que... » Il dut s'interrompre. Un coup de sonnette venait de retentir. Peu après, M. Édouard Salmand pénétrait dans la pièce. Grand, mince, voûté, on le devinait incapable de bomber le torse. Pour cette raison, sans doute, il portait la tête très haute, en arrière presque. Il avait une longue mâchoire étroite et des oreilles qui semblaient écartées, tant derrière la nuque était maigre. en se frottant les mains avec la complaisance d'un homme qui éprouve une jouissance à ce qu'elle soit sèche, il s'inclina avec beaucoup d'amabilité devant Madame Bénac. Puis, comme il tapotait à plusieurs reprises ses poches, afin que les objets qui s'y trouvaient prissent leur place et ne formassent pas de bosses disgracieuses, il eut un mouvement des épaules, une sorte de tic plutôt, dont il n'avait jamais pu se défaire, qui avait pour origine le souci de remonter le col du veston afin de masquer sa nuque décharnée. « J'espère que je ne vous ai pas fait attendre, » dit-il en examinant avec attention la pièce où on le recevait, mais sans qu'il y eût quoi que ce fût dans le regard qui ressemblât à de l'insolence, tellement la curiosité était chez lui naturelle. « Si je suis en retard, » continua-t-il, « c'est bien malgré moi. Impossibilité absolue de trouver un taxi par ce temps de chien. J'ai dû prendre le métro. Obligation de changer 3 fois. « 3 fois, j'exagère, » ajouta-t-il en souriant, « mais 2 fois. « Si j'avais su, » dit Marcel Bénac, « je me serais permis de... » Une page manque dans le manuscrit. Qui voulait dire également qu'il fallait retenir M. Salmant pour éviter on ne savait quelle fâcheuse rencontre. Bien qu'elle n'en eût jamais reçu, Madame Bénac avait la crainte des visites nocturnes. « Mais qu'avez-vous, madame ?» demanda M. Salmant, qui avait remarqué son trouble. « Rien, je n'ai rien. » Elle quitta le salon en riant pour cacher cette crainte qui, elle en avait conscience, avait quelque chose d'un peu vulgaire. « Il pleut toujours, » dit le frère, pour détourner l'attention, en quittant la fenêtre où il se tenait depuis un long moment déjà, avec l'espoir d'être aperçu du dehors, comme dans les cérémonies, ces personnages qui s'isolent près des barrières, derrière lesquelles sont massés les curieux. Une fois seule, Madame Bénac s'arrêta un instant pour reprendre sa respiration. Elle était si émue qu'elle se trompa de commutateur, fit la lumière dans la cuisine avant de la faire dans l'entrée. Il y avait là, sur la table, un vase de fleurs. Sans se rendre compte pourquoi elle faisait cela, elle prit une fleur, en sécha la tige après la nappe qui recouvrait la table, porta une main à ses cheveux, se décoiffa légèrement. La raison de ces gestes bizarres était qu'elle voulait paraître, aux yeux du visiteur, sortir d'une fête, afin qu'il comprît qu'elle avait des invités et qu'il se retira sans insister. Mais quel visiteur ! Elle n'attendait personne. Elle avait beau réfléchir, elle ne trouvait pas qui peut venir la déranger à pareille heure. Enfin, elle ouvrit la porte. Une jeune femme se tenait sur le palier. Madame Bénac avait gardé de son ancienne profession de bijoutière une manière assez sommaire de juger les gens. Ils étaient tous parfaits, sauf quelques exceptions. Une telle façon de voir est nécessaire quand on a pris l'habitude d'être aimable avec tout le monde, de ne pas faire d'exception de personne. Mais comme le mal ne saurait disparaître malgré tout le désir qu'on en a, on charge une toute petite minorité de tous les péchés. La première impression de Madame Bénac fut que la visiteuse appartenait à cette minorité. Une toque sombre aux bords alourdis par la pluie cachait les yeux de la jeune femme. Elle portait un waterproof clair dont le col, comme celui des officiers, était maintenu relevé par une courroie et qui tombait droit devant elle, comme si elle n'eût pas eu de poitrine. « Je m'excuse, madame, » dit-elle tout de suite, « de vous déranger. Il y a plus d'une heure que j'attends dans la rue le docteur Salmant. Est-ce qu'il est encore chez vous ?»« Certainement, mais de quoi s'agit-il » demanda Madame Bénac sans lâcher la porte. « Je suis sa fille, madame. Je suis arrivée de voyage tout à l'heure. Le domestique m'a appris que mon père était chez vous. J'ai pensé qu'il avait été appelé auprès d'un malade. Mais je vois que vous êtes de ses amis. » Malgré toute l'admiration que Madame Bénac avait pour M. Salmant, elle n'en garda pas moins une certaine réserve. Bien qu'il y eût 5 ans qu'elle s'était retirée des affaires, 20 années de méfiance ne s'étaient pas écoulées sans laisser encore aujourd'hui des traces. « Veuillez entrer, mademoiselle !» La jeune fille obéit. D'un geste brusque, elle ôta son chapeau. Puis elle défit la courroie du col. La tête apparut alors, toute petite, sur le cou, d'une longueur et d'une minceur extraordinaires. Madame Bénac, sans l'aider, sans prononcer la moindre parole de bienvenue, l'observait. Le docteur avait donc une fille, et il ne l'avait jamais dit. Pourquoi ? Madame Bénagne ne pouvait détacher son regard de la visiteuse. Celle-ci s'était redressée pour respirer profondément. Ce faisant, elle tenait d'une main son chapeau, de l'autre un sac de cuir dont la langueste sous laquelle on glissait les doigts était décousue au point de se détacher d'un côté. « Elle est pauvre, » pensa-t-elle. Comme si cette constatation la rassurait, elle devint sur le champ plus aimable. « Nous avons des amis, mademoiselle. Voulez-vous que je prévienne votre père, que je le prie de venir vous rejoindre ici ? Cela vous sera sans doute plus agréable que d'entrer au salon. » De l'entrée où elle se tenait immobile, la fille du docteur Salmant suivit Madame Bénagne des yeux. Celle-ci ouvrit une porte. Durant un instant, la jeune fille vit un coin désert du salon où la lumière était crue et blanchie par la fumée des cigarettes. Son père était dans cette pièce. Que faisait-il ? Était-il debout ou assis ? Parlait-il ? Mais le coin désert disparut sans avoir répondu. La jeune fille se mit alors à trembler. Elle se retourna. On eût dit que, craignant d'être frappée, elle cherchait déjà jusqu'où elle pourrait reculer. Puis, soudain, elle tendit les bras le long de son corps, non pas comme quand on se met au garde à vous, mais de toutes ses forces, ainsi que le font les moribonds qui essaient de se soulever dans leur lit. Ce mouvement avait quelque chose d'horrible, comme tous ceux qui trahissent un immense effort alors qu'ils se font dans le vide. Bientôt, la porte du salon se rouvrit. Monsieur Salmant parut. Quoique sa fille fût devant lui, il avait l'attitude du voyageur qu'on a fait chercher dans sa chambre et qui s'avance dans le hall d'un hôtel. De la fumée de cigarette s'élevait d'une de ses mains en une spirale étroite et verticale. Maintenant, il était à un pas de sa fille. Il la regarda, mais seulement dans les yeux. Il était visible qu'il avait choisi les yeux parce qu'ils demeurent toujours les mêmes dans le visage qui se transforme. Il ne voulait pas savoir ce que sa fille était devenue en ces 4 dernières années. Il ne voulait pas qu'un détail qui pût déceler un changement attirât son attention. « Comment se fait-il que tu sois venue ici ?»« C'est Marie qui m'a dit où tu étais. »« Tu ne pouvais pas m'attendre à la maison. Tu es donc tellement pressée de me revoir au bout de 4 ans. » C'était en effet en mars 1918 que Colette avait disparu. Elle ne répondit pas. Elle revoyait Jacques qu'elle avait quitté il y avait 12 heures sur le quai de la gare de Genève. Elle le revoyait marchant à côté du train lorsque celui-ci s'était ébranlé. Elle revoyait le léger pardessus gris clair malgré la pluie et le froid, les souliers jaunes dans des caoutchoucs. « Je ne pourrais pas aller plus loin que la trompe d'éléphant, » avait dit Jacques. Là, il s'était arrêté. Elle le revoyait ouvrant son parapluie parce que la verrière de la gare n'allait pas jusque-là. Il obéissait. Il pensait à sa santé. Monsieur Salmant se tourna vers Madame Bénac. « Je vais partir. Cela vaut mieux. Il faudrait peut-être avant que mademoiselle prît quelque chose de chaud. Cela me fait de la peine de la voir repartir ainsi. » À ce moment, Denise intervint. « Je t'en prie, maman, laisse M. Salmant agir comme il l'entend. » Peu après, le père et la fille prenaient congé. Dehors, il pleuvait encore et des reflets tremblaient comme des flammes sur les trottoirs luisants. C'était une pluie fine, inclinée naturellement, qui vous mouillait à la lumière et semblait vous dédaigner dans l'ombre. M. Salmant marchait à grandes enjambées, sans prononcer une parole, sans se soucier de sa compagne. On eût dit qu'il avait hâte de rentrer. Pourtant, des taxis le dépassaient, auxquels il ne faisait pas signe. Peut-être éprouvait-il une joie mauvaise à laisser courir Colette derrière lui, comme un chien derrière une voiture. Soudain, place du Châtelet, il s'arrêta, se retourna, feignit d'être étonné que sa fille fût encore là. « Qu'est-ce que tu me veux ? » demanda-t-il. « Je veux te voir. »« Pourquoi ? Je ne vois pas pourquoi. C'est bien imprévu de ta part. Tu veux me voir, tout à coup, au bout de 4 ans, et c'est tellement pressé que tu viens me chercher chez des amis. »« Je ne croyais pas que tu étais chez des amis. Je croyais que tu étais chez un malade et que tu allais ressortir très vite. Je voulais t'attendre, te faire une surprise. »«
Une surprise ? » ?»«
Oui ?»
« Tu mens encore. Avoue donc tout de suite que tu as besoin de moi, que tu as quelque chose à me demander. »
Colette ne répondit pas.
C'était vrai, elle avait quelque chose à demander. Elle revenait, poussée par la nécessité. Mais ce qui était vrai également, c'était que malgré cela, elle aimait son père. S'il ne le comprenait pas, qui donc le comprendrait ?
Non, je n'ai rien à te demander, répondit-elle, tellement elle le sentait fragile sur cette place, au milieu de la nuit, les liens qui l'attachaient à son père.
Monsieur Salmon, pour la première fois, regarda sa fille de la tête aux pieds. En cette circonstance, c'était une marque de tendresse.